Mondial Sport sur RFI. Olivier Prom.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, 29 minutes au cours desquelles avec Cédric de Oliveira, nous allons vous parler de foot en Europe avec un reportage notamment sur la semaine compliquée du Real Madrid. Foot en Afrique avec un retour sur la finale aller de la Ligue des Champions, Al Ahly. Espérance Tunis, au programme aussi du vélo au Burkina Faso et sur le Giro, du tennis à Paris et de la voile à Saint-Malo. Mondial Sport à écouter sans modération, c'est parti. Direction l'Espagne, donc pour commencer, folle journée à Madrid ce samedi. Trois matchs au programme. Le Barça, leader actuellement dans les arrêts de jeu, est en train de faire match nul sur le terrain du Rayo Vallecano, 19e club de quartier de la capitale espagnole. Et à ce moment même, eh bien, le Barça est en train de l'emporter. 3-2 sur le terrain du Rayo Vallecano. Merci Cédric de Oliveira. 2 buts marqués dans les toutes dernières secondes. L'Atlético, 2e, donc finalement à 4 points pour le moment, jouait lui en banlieue madrilène cet après-midi à Leganés, où il n'a pu faire mieux qu'un partout malgré l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Et puis dans l'après-midi aussi, le Real, 6e, a souffert mais l'a emporté en fin de match sur Valladolid 2-0, histoire de clore a priori positivement une semaine marquée notamment par l'éviction de l'entraîneur Julen Lopetegui et la prise de fonction sans doute provisoire de Santiago Solari, ancien joueur merengue, entraîneur jusqu'ici de l'équipe B. Bref, au terme de cette semaine que nous raconte Pierre Chaperon, pas sûr que la sérénité soit revenue dans ce Real mal en point.
C'est officiel, le communiqué du Real Madrid vient de tomber. La direction du club s'est réunie aujourd'hui et vient de mettre fin au contrat qui liait Julen Lopetegui et le club.
La nouvelle n'a pas fait l'effet d'une bombe lundi aux alentours de 21h, tant l'annonce du départ de Lopetegui était prévue de longue date. Déjà congédié par la fédération espagnole à quelques heures de l'entrée de la Roja en Coupe du Monde pour avoir accepté la proposition du Real Madrid, le Basque s'en va 5 mois à peine après son arrivée. Un passage bref, mais que comprend Ravière, la quarantaine et socio du club.
Je crois que Lopetegui, sincèrement, n'était pas l'entraîneur qu'il fallait pour le Real Madrid. Il s'est retrouvé dans une situation à laquelle il ne s'attendait pas. Peut-être que Lopetegui espéra avoir une autre équipe.
Un départ qui est aussi l'occasion pour une bonne partie des supporters de critiquer la gestion de Florentino Pérez. Le président du Real n'a pas réussi à attirer des grands noms durant le mercato estival. Il a laissé filer l'entraîneur, vainqueur des 3 dernières Ligue des Champions, Zinedine Zidane, n'a pas retenu Cristiano Ronaldo. Juan, même pas la 20aine, porte fièrement le maillot de l'ancienne star portugaise. Il regrette les choix de son président.
Je crois que c'est la faute de Florentino, parce qu'au final, c'est lui qui laisse cette équipe sans son meilleur joueur, à Lopetegui. Il n'y a pas eu de transfert. On a remporté 3 Ligues des Champions de suite, mais Florentino Pérez n'a pas fait ce qu'il devait faire après. Et ensuite, Lopetegui, lui, il a fait ce qu'il a pu. Il s'est trompé aussi, mais ça n'est pas seulement sa faute. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, il a perdu 50 buts et Florentino n'a pas signé un attaquant. Et ça se voit. Je crois que le plus grand responsable, bah oui, c'est lui, c'est Florentino Pérez.
Une critique légitime, mais dure, selon le journaliste de Radio Marca, Pablo Parra.
Al final, je crois que les supporters l'accusent d'être le responsable numéro 1 parce que c'est le plus haut placé dans la hiérarchie. Ses décisions ont une influence. Mais c'est lui qui est le premier responsable des 4 victoires en Ligue des Champions en 5 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est à la base des bons et des mauvais moments. Pour moi, ce n'est pas le principal responsable, même s'il a sa part parce qu'il n'a pas remplacé Cristiano Ronaldo, ce qui est une grosse erreur. Mais il n'est pas seul dans cette histoire. Je crois qu'au début de la saison, il y avait une équipe pour remporter tous les matchs face au Barça, l'Atlético ou le FC Séville. Pour moi, dans ces moments-là, c'est toujours l'effectif. Responsable quand ça va mal et quand ça va bien aussi.
Mais le Real continue et Santiago Solari a pris la suite. En attendant mieux, Antonio Conte, par exemple, l'Italien a fait au final volte-face alors que tout était acté. Peut-être inquiet par les retours hostiles à son arrivée. Alors, le club ne s'interdit rien, même le plus inimaginable. Quoi qu'il en soit, le Real s'est imposé dans la douleur contre Valladolid, 2-0 pour la 11e journée de Liga, renouant avec une victoire qui fuyait le club en championnat depuis fin septembre. Pour le gardien de but madrilène, Thibaut Courtois, l'époque Lopetegui est révolue et il faut aller de l'avant.
Quand tu n'arrives pas à gagner, bah, tu sais qu'ils vont virer l'entraîneur. Maintenant, ok, on doit laisser ce page derrière. On a notre entraîneur maintenant, on doit essayer d'améliorer. Mais c'est pas gay, tu sais qu'il y a beaucoup de pression. Tu joues dans le plus grand club du monde. Tu sais que c'est pas la position où Real Madrid doit être. Je crois que maintenant, ça va un peu mieux, donc j'espère qu'on peut continuer comme ça. Oui, je crois qu'on prend un peu moins de risques aussi. Mais peu à peu, on doit essayer d'améliorer.
Mais le problème semble plus profond et les sifflets entendus aujourd'hui contre Bale, contre Casemiro, par exemple, montrent que les supporters attendent mieux de leur protégé. Des supporters déjà fatigués des atermoiements de leur club, alors que nous ne sommes qu'au mois de novembre. Pierre Chaperon, Madrid RFI.
Et je vous confirme le succès pour le moment du Barça au Rayo Vallecano 3-2. En Angleterre, le choc de la 11e journée, Arsenal recevait Liverpool et au terme d'un match emballant, les deux équipes n'ont pu se départager un partout. À Milner, à l'heure de jeu, la Lacazette a répondu en fin de match, un point qui suffit néanmoins aux Reds pour prendre la tête, un point devant Manchester City qui jouera ce dimanche face à Southampton, 3 devant Chelsea qui accueillera Crystal Palace. Tottenham est 4e, Arsenal 5e, et puis à noter le succès difficile de Manchester United, 2-1 à Bournemouth en Italie. Statu quo en tête puisque les trois premiers ont gagné. La Juve ce soir à Cagliari 3-1. L'Inter cet après-midi 5-0 contre le Genoa. Et hier, Naples à domicile a fessé Empoli 5-1. Interistes et Napolitains sont à 6 longueurs des Turinois. En Allemagne, le Bayern tenu en échec à domicile par Fribourg 1-1, cède 2 points au leader Dortmund. Le Borussia est allé gagner à Wolfsburg 1-0. Enfin, en Ligue 1, en France, Paris avait enchaîné vendredi un 12e succès de rang, 2-0 face à Lille, son dauphin. Ce samedi, Lyon, 4e, a été accroché par Bordeaux à domicile, 1-1. Nouvelle défaite de Monaco, 1-0 à Reims. Les hommes du Rocher sont 19e. Ce dimanche, Montpellier, 3e, accueillera Marseille, 5e. Le foot aussi en Afrique. Cédric de Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
L'événement de ce week-end, c'était bien sûr la finale aller de la Ligue des Champions entre Al Ahly, on va le dire comme ça, c'est plus simple, et l'Espérance de Tunis.
Oui, avec une très belle option prise par les Égyptiens qui se sont imposés 3-1 hier. Match qui avait lieu à Port Guélarab à côté d'Alexandrie. La soirée qui a été mouvementée. Certes, les Kérottes ont dominé cette première manche, mais la rencontre a été marquée par une polémique et des décisions arbitrales controversées malgré l'utilisation de la VAR pour la première fois dans la compétition. Au final, l'Espérance de Tunis a bien du mal à digérer cette défaite, comme a pu le constater Frédéric Nkena à Alexandrie.
Après le coup de sifflet final, le sentiment d'injustice prédominait chez des Tunisiens particulièrement remontés. Remontés d'avoir, malgré l'assistance vidéo, concédé deux pénaltys contestables selon eux, un à la 30e minute et un deuxième à un quart d'heure de la fin sur une faute peu évidente dans la surface de réparation sur l'attaquant marocain du Al Ahly, Walid Azaro. Les joueurs de l'Espérance ont préféré ne pas s'exprimer devant les micros, à l'exception de leur coach, Mouine Charbani, qui a choisi le ton de l'ironie pour dénoncer ce qu'il considère comme un hold-up.
J'ai pas voulu parler du VAR, mais de toute façon, on accepte. C'est comme ça le football en Afrique. Il faut accepter. Il y a beaucoup de choses dans ma tête, mais je suis calme maintenant. Je vais vous dire que tout était bien. Et on va bien accueillir l'Ahly à Tunis.
La vidéo, c'est aussi ce qu'ont retenu les journalistes tunisiens venus nombreux à Borg El Arab pour couvrir la finale aller de la Ligue des Champions. Fouad Boufata, journaliste à Atessia TV.
Tous les Tunisiens, aujourd'hui, on a vu une catastrophe, un arbitre catastrophique aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on va l'avoir dans cette finale. Mais... malgré ça, l'arbitre algérien a commis des fautes banales.
Fahmi Bourami, journaliste à Mosaïque FM.
L'arbitre a forcé le résultat en faveur d'Ahly. Ahly mérite de gagner, mais pas ce score. Et l'Espérance ne mérite pas cette défaite de 3-1. C'est une défaite à goût amer parce que l'arbitre, l'Algérien Mehdi Abitchef, qu'on connaît bien en Tunisie, qu'on était satisfait d'être désigné pour siffler le match, mais malheureusement il est passé à côté.
Côté égyptien, c'est la satisfaction. El Ahly a globalement maîtrisé son sujet à Borg El Arab. Son coach Patrice Carteron estime que se focaliser sur l'utilisation du VAR est un moyen pour les Tunisiens d'occulter leur mauvais match.
Bah, j'ai envie de dire que s'ils se plaignent de la VAR, c'est quoi la prochaine étape? C'est-à-dire qu'ils ont eu aussi, il me semble, un pénalty, donc je ne sais pas de quoi ils se plaignent. L'arbitre a simplement, on avait la chance aujourd'hui d'avoir une assistance vidéo. Donc s'il y a une assistance vidéo, ça veut dire que c'est la garantie que les choix et les décisions de l'arbitre ont été bonnes, ont été excellentes. Donc là encore, c'est de la polémique pour pas grand-chose, parce que le plus important, c'est le terrain. On a su faire la différence et on a mérité cette victoire.
Les joueurs du Al Ahly sont unanimes et plutôt en phase avec des décisions arbitrales. Souleymane Koulibaly, défenseur central du Al Ahly.
Ouais, il n'y a pas photo, c'est le penalty pire, oui. C'est normal, c'est de foot, à chaque fois on se plaint.
L'Espérance de Tunis n'a pas dit son dernier mot et espère surmonter comme en demi-finale son handicap de 2 buts. Mais la tâche ne sera pas aisée face à un Ahly qui entend remporter sa 9e Ligue des Champions. Frédéric Quenat, Borg El Arab, RFI.
Et cette finale retour entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis aura lieu vendredi à Rades dans une ambiance sans doute explosive. Et les 100 or qui seront privés pour ce match du milieu de terrain camerounais Franck Comme et du défenseur tunisien Chamseddine Dawadi, tous les deux suspendus après leur carton jaune, des décisions contestées par le clan tunisien. Le comité d'urgence de la Fédération tunisienne de football s'est d'ailleurs réuni ce samedi à la demande de son président Wadi Jahari pour protester justement contre toutes ces polémiques autour de la finale. La FTF, Olivier, qui visiblement ne compte pas en rester là.
Du tennis à présent dans Mondial Sport, Novak Djokovic, Karen Khachanov, ce sera ce dimanche l'affiche inédite du 33e tournoi de Paris, un Masters 1000 qui a suivi cette semaine pour nous. Eric Mamrut, que l'on retrouve à l'Arena de Bercy, doit être bien tout seul dans cette grande salle. Bonsoir Eric.
Bonsoir, non, on fait la fête.
Oh oui, dites donc, j'entends ça derrière vous. Avant de parler de la qualification surprise du Russe Khachanov, Eric, qui a battu en début d'après-midi l'Autrichien Dominic Thiem. Honneur à l'autre demi-finale, bien sûr, la plus attendue, celle entre Novak Djokovic et Roger Federer. Elle a tenu toutes ses promesses pour les amateurs de tennis que nous sommes.
Oui, quel match, quel spectacle en effet. Le public s'est régalé lors de ce 47e choc entre le Serbe et le Suisse. La bataille était intense, serrée, indécise, d'un grand niveau, avec deux champions vraiment au sommet de leur art. 3 heures de pur bonheur, dont Novak Djokovic est sorti vainqueur in extremis. Succès 7-6, 5-7, 7-6 pour le numéro 2 mondial face au numéro 3. Un des plus grands matchs de l'histoire du tournoi, sans aucun doute. Son directeur, évidemment, était comblé après la balle de match. Guy Forget.
C'est extraordinaire, vous savez, quand on voit deux joueurs jouer aussi bien. On a vu parfois des avalanches de points gagnants les uns après les autres. Et c'est vrai que les 15 000 personnes qui étaient dans cette salle se sont régalées. Malheureusement, il y a toujours un perdant à l'arrivée. Cette fois-ci, c'était Roger Federer, mais bon, il a un niveau de jeu une nouvelle fois incroyable. Et ça s'est joué presque sur un coup de dé. On savait qu'avant le match, c'était peut-être Novak qui avait un petit avantage par rapport à la constance, hein, fort de ses 2 derniers titres en Grand Chelem. C'est peut-être ça qui a penché en sa faveur. En tout cas, on s'est fait 3 heures de rêve ce soir ici.
La constance, la confiance de Novak Djokovic, en effet, qui restait sur 21 matchs gagnés consécutivement. Aujourd'hui, le Serbe, challengé comme rarement, n'a jamais flanché malgré 12 balles de break non converties durant le match. Malgré le public, en majorité également pour Federer, eh bien, il a arraché la victoire. Une belle satisfaction et un gros soulagement évidemment pour lui, Novak Djokovic.
C'est vraiment un spectacle, c'est le meilleur match que j'ai joué cette année, c'est sûr. Grand respect à Roger pour grande bataille. Évidemment, c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de qualité sur le jeu. Et oui, aujourd'hui, vraiment, jusqu'à la dernière balle, je ne sais pas si je peux faire la victoire. Donc, quand je joue contre Roger, il demande tous les jours les meilleurs de moi. Et ça, c'est une opportunité pour moi, tous les jours, d'essayer quelque chose d'autre, de faire bien. Donc, je suis évidemment très heureux.
Novak Djokovic qui va tenter de remporter demain son 5e trophée à Bercy. Ce serait son 33e Masters 1000, un record détenu pour l'instant par Rafael Nadal.
Quant à Roger Federer, Eric, il a plutôt bien fait de venir à Paris après 3 ans d'absence.
Voilà, il s'est décidé au tout dernier moment, mardi très exactement, soit 2 jours après avoir gagné chez lui à Bâle le 99e tournoi de sa carrière. Ces 2 dernières années, Federer avait pris l'habitude de zapper le rendez-vous parisien pour se ménager en vue du Masters de Londres. Cette année, il a senti en fait qu'il avait besoin d'un petit peu plus de matchs, de rythme pour arriver à son top pour l'échéance londonienne. À l'arrivée, malgré la défaite d'aujourd'hui, Federer peut être satisfait du niveau affiché à l'Arena de Bercy. On l'écoute.
Désolé que j'ai perdu pour moi, parce que perdre c'est jamais drôle. La semaine dernière, en fait, j'ai gagné un titre, ça m'a donné pas mal de confiance. On le voyait aujourd'hui dans les moments clés aussi. J'ai sauvé plein de balles de break. J'étais pas crispé, j'étais pas nerveux. Ça montre que j'ai pris l'habitude de jouer des matchs de nouveau. Voilà. Je suis content que le corps il est bien. Mentalement, j'étais tough. Voilà. C'était une bonne chose aussi. Voilà. Et j'ai fait une demi, voilà, c'est déjà pas mal. Alors je peux quand même être très satisfait.
Federer qui ne sait pas encore s'il reviendra à Paris l'année prochaine pour jouer Roland-Garros, un tournoi qu'il n'a pas disputé ces deux dernières années.
Quant à Karen Khachanov, l'autre finaliste, il disputera demain sa première finale dans un Masters 1000.
Oui, à 22 ans, le Russe, 18e à l'ATP, poursuit sa belle progression. Vainqueur de deux tournois cette année, il a battu cette semaine trois top 10, Isner, Zverev et Dominic Thiem. Aujourd'hui, l'Autrichien surclassé 6-4, 6-1. Sa puissance, sa vélocité, sa concentration font des ravages cette semaine. Karen Khachanov, heureux mais qui n'a pas envie de s'arrêter.
C'est bien sûr un sentiment très agréable. Je suis vraiment très content d'être en finale. Mais bon, le tournoi n'est pas encore terminé. Cela dit, je suis heureux de jouer à ce niveau, surtout lors du dernier tournoi de l'année. Être toujours capable d'être frais mentalement et physiquement. Atteindre la finale d'un Masters 1000, c'est vraiment un grand accomplissement. Et je sens que match après match, eh bien, je joue de mieux en mieux. Et cela me rend heureux. J'ai vraiment hâte de jouer cette finale. Ce sera un beau match face à une légende du tennis. Mais je sens que je peux gagner. J'ai joué plusieurs fois cette année contre les meilleurs et dans des grands tournois. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience. Bien sûr, il faudra que je joue mon meilleur tennis, mais j'aimerais vraiment gagner.
Karen Khachanov battue cet été à Wimbledon et en 3-7 lors de son unique affrontement contre Djokovic. Demain, c'est la revanche.
Merci Eric Mamrud, vous serez là pour nous faire vivre sur RFI cette finale. Allez, pas le temps de musarder, on part maintenant au Burkina Faso. Le tour du Faso s'achève demain dimanche à Ouagadougou, c'est du vélo, hein, bien sûr.
Oui, oui, effectivement, 9e et avant-dernière étape ce samedi entre Lumbila et Kaya avec la victoire du Belge Arnie De Groot. Une journée qui n'a rien changé au classement général, c'est toujours le Burkinabé Mathias Sorgho qui est maillot jaune, sauf énorme retournement de situation. Il devrait donc remporter son premier tour du Faso demain à Ouagadougou. Pas très loin au général, se trouvent également deux coureurs qui se sont illustrés sur cette édition 2018, le Burkinabé Paul Daumont et le Néerlandais Rick Nobel, soit les deux premiers du classement du meilleur jeune. Deux espoirs du cyclisme qu'Éric Chorin a rencontrés sur les routes du Burkina Faso.
Rick Nobel est néerlandais, il a 24 ans et occupe la 4e place au classement général. Paul Daumont est burkinabé et il est 7e sur son premier Faso à seulement 19 ans. Les deux meilleurs jeunes de ce tour ont d'autres points communs. Ils sont longilignes, affûtés, intelligents dans la course et dans la vie, sans oublier d'être ouverts sur le monde. C'est d'ailleurs cette ouverture d'esprit qui a mené le blond néerlandais aux yeux bleus, Rick Nobel, sur les routes du Burkina.
Je suis commencé avec faire du vélo quand j'étais 10 ans et quand j'ai commencé d'étudier, j'ai décidé de faire du vélo un peu plus tranquille, pas avec le rêve d'être professionnel. J'ai commencé à faire des courses autour du monde. J'ai fait des tours plus de 30 pays. Donc Vietnam, Guatemala, Togo, République démocratique du Congo, beaucoup de pays. Et chaque année, j'ai amélioré. Et cette année ici était une année géniale avec une 3e place au Sénégal. 8e en Algérie et maintenant Tour du Faso, ça va aller. C'est une combinaison de plaisir avec des amis, voyager et de compéter. Ça, c'est génial, je pense.
Combiner plaisir et compétition ont permis à Rick Nobel de vivre une belle année 2018, mais cette année a été plus exceptionnelle encore pour Paul Daumont. À 19 ans, le gamin né à Bangui d'une maman burkinabé et d'un papa français, famille qu'il a croisé à Bobo-Dioulasso, le gamin donc a grandi d'un coup en parcourant le monde de la tropicale au Gabon en janvier jusqu'au championnat du monde en Autriche et les espoirs en septembre dernier. Voilà pourquoi celui qui a animé la première étape du Faso est encore au rendez-vous pour la dernière.
Je tiens la distance, j'ai eu beaucoup d'entraînement cette année, j'ai eu la chance de participer aussi à de nombreux tours en Afrique, donc du coup je commence à acquérir un peu d'expérience. Il faut savoir aussi que j'ai commencé à vraiment sortir du Burkina en janvier avec la Tropicale Amissa Bongo. Donc du coup, on peut dire que j'ai eu un bon entraînement pour ce tour.
Et un passage par le Centre mondial du cyclisme, qu'est-ce que tu y as appris ?
Et on nous a appris ce que c'était le niveau européen, en nous faisant participer à de nombreuses courses de niveau européen et mondial, puisque j'ai participé au championnat du monde U23 en contre-la-montre et en ligne.
C'était une sacrée expérience, j'imagine, non ?
Oui, c'était vraiment impressionnant. C'est une étape que j'aurais jamais pu imaginer atteindre un jour dans ma vie.
Paul, vous étiez quand même le seul coureur de l'Afrique de l'Ouest à ces championnats du monde. Vous vous rendez compte?
Oui, c'était particulier puisque j'étais aussi le seul francophone. Donc du coup, voilà, je le savais qu'il y avait je rivalisais avec les plus gros pays en Afrique. Il y avait l'Érythrée, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Et du coup, j'étais un peu l'outsider. Voilà, pas que je faisais tâche, mais voilà, les gens étaient surpris. Il y avait même des commentateurs qui connaissaient pas le drapeau du Burkina.
Ouais. Un drapeau burkinabé que Paul Daumont aimerait faire connaître un peu plus encore en faisant du vélo au plus haut niveau.
Bien sûr, c'est toujours l'objectif, progresser et atteindre un niveau vraiment déjà un très bon niveau en Afrique, puisque maintenant le niveau quand même en Afrique est assez relevé. Mais bien sûr, après la suite, c'est voilà, de pouvoir commencer à rivaliser avec dans des courses européennes, ce serait vraiment particulièrement valorisant pour notre cyclisme ici au Burkina.
Et quand Paul Daumont rêve de faire briller le cyclisme burkinabé en Europe, Rick Nobel, lui, l'étudiant en sciences politiques et relations internationales, s'apprête à rester au Burkina Faso les 6 mois à venir. Et cette fois, ce n'est pas pour faire du vélo, en tout cas pas seulement.
Il y a un an que j'ai parlé avec une professeure de l'université de Ouagadougou. Je fais écrire ma dissertation ici. Et cette année, je suis commencé à travailler à le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Ici, je commence comme consultant pour le ministère, pour l'ambassade du Pays-Bas à Bamako.
Et votre thèse, c'était sur quoi alors?
C'est vraiment visé sur la jeunesse aussi, des réseaux de jeunesse au Burkina Faso, de la société civile, comme le ballet citoyen, et l'évolution de ce réseau.
Donc là, oui, vous connaissez déjà un peu le Burkina et vous allez continuer à avoir une belle expérience de vie ici.
Oui, vraiment.
La vie, selon Rick Nobel et Paul Daumont, ou quand le vélo vous ouvre le monde. Mais bon, il faut quand même pédaler. Éric Chorin, Ouagadougou, RFI.
Et demain, 10e et dernière étape de ce Tour du Faso, 127 km entre Zorgo et Ouagadougou.
Merci Cédric. On continue à parler vélo dans Mondial Sport, mais en Europe cette fois. Le 11 mai prochain, c'est dans Serra de Bologne, la 102e édition du Giro, le Tour d'Italie. 3 semaines plus tard, le 2 juin, elle s'achèvera à Vérone. Entre temps, 7 arrivées en montagne, 3 contre la montre, 21 étapes entre nord et centre du pays, rien au sud. Et cela choc chez nos amis transalpins depuis que ce parcours a été dévoilé mercredi à Milan. Bonsoir Matteo Cioffi.
Bonsoir Olivier.
Mais pourquoi donc, Matteo, oublier le sud? Quelles sont les raisons? Bon, en même temps, le Tour de France aussi zappe certaines régions françaises, comme la Bretagne, par exemple, l'été prochain.
Bah, écoutez, Olivier, les raisons qui ont poussé les organisateurs du Giro à déserter le sud, même s'il y a une étape qui arrivera dans les Pouilles, ce sera le 16 mai. L'arrivée sera à San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles, donc. Pour les raisons, c'est des raisons, mon cher ami, surtout économiques. Pour se déplacer dans les îles, il faut plus d'argent. Ensuite, les municipalités du sud ont en moyenne moins d'argent par rapport à celles du nord et du centre de l'Italie. Et enfin, troisième cause, peut-être la plus importante, normalement c'est dans les montagnes que la course s'enflamme et que le spectacle touche son niveau plus haut.
Alors, le sud italien, vous l'avez dit, Matteo, en même temps, est plutôt pauvre par rapport au nord, et accueillir une étape d'un grand tour, ça coûte cher.
Oui, en effet, Olivier. L'année passée, sur le site internet Business Insiders, on avait eu un rapport qui expliquait un peu comment le système fonctionne. Les organisateurs établissent de façon privée le prix de chaque étape, qui donc change d'une ville à l'autre, au contraire du Tour de France où aux municipalités on demande toujours le même chiffre. Au Giro, l'étude a donc montré que le prix d'une étape varie beaucoup et ne va jamais au-dessus de 20-25 000 euros et peut même attendre 500 000 euros comme dans le cas de Milan qui en 2017 s'est assuré la dernière étape du Giro. Et tout change encore si le départ est donné à l'étranger. Un exemple, cette année pour les 3 premières courses qui se sont déroulées en Israël, le pays israélien a dû payer 4 millions d'euros. Vous comprenez donc pourquoi les organisateurs préfèrent aller ailleurs plutôt qu'au sud de l'Italie. Chez moi, ça s'appelle business, je ne vois pas d'autre mot.
Mais on a vraiment grondé, Matteo, là, dans le sud du pays ces derniers jours?
Bah, écoutez, dans le sud du pays, on adore le cyclisme. C'est pas un cas si les deux cyclistes les plus forts du moment, c'est-à-dire Fabio Aru et Vincenzo Nibali, proviennent de cette région. Donc, vous voyez, tous ceux qui habitent au sud regardent ce Giro et se font des questions. Pourquoi ils passent pas ici? Pourquoi on nous oublie? Bah, on vient de le dire, on vient de l'expliquer.
Bon, donc le sud pas au programme, Matteo. Pourtant, ce programme, il est alléchant, hein, avec, je le disais, cette arrivée en montagne.
Oui, il faut dire que ça démarre fort avec la première étape qui sera un contre-la-montre individuel entre Bologne et le col de Santa Lucia, 8 km assez intense avec une dernière partie de route où les coureurs devront grimper à près de 10-12%. Pour les grands sommets, il faudra attendre la deuxième semaine, à noter la troisième étape, Pinerolo, Ceresole et Reale, avec 3 grands prix de la montagne, 14-15% de dénivelé. Les deux jours suivants seront aussi assez compliqué, et ce sera toujours dans les Alpes. Les Alpes qui laisseront place dans la dernière semaine aux Dolomites, et là, faudra vraiment pas rater l'étape du 28 mai, la plus attendue, quand tous les rescapés du peloton affronteront en un seul jour le col de la Presolana, celui de Gavia et le terrible Mortirolo. Et puis, contre la montre finale à Vérone, 15,6 km avec quelques montées à ne pas sous-estimer.
Merci Matteo Cioffi, bonne fin de soirée à Milan. On termine avec de la voile, la 11e édition de la Route du Rhum s'élance ce dimanche au large de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Pour son 40e anniversaire, la reine des transatlantiques s'offre un record de participants, 123 marins au départ, la classe ultime notamment avec les meilleurs du moment, François Gabart et Armel Lecléache. Et au milieu de tout ça, un duel d'amoureux, Samantha Davis, Romain Attanasio. Elle est britannique, il est français, la mer les a réunis, cette fois Thomas de Saint-Léger, elle va les séparer.
De mémoire de marin, c'est du jamais vu. Le temps d'une traversée de l'Atlantique, Samantha Davis et Romain Attanasio en couple sur terre seront adversaires sur la mer. Un duel que le Français et la Britannique ont préparé en duo, bien sûr. Samantha Davis.
Quand on prépare les courses en double ou en équipage, on discute beaucoup sur la stratégie, sur comment on va faire ensemble. Mais là, tout seul, on se retrouve un peu à se demander à qui on peut parler, ne pas parler. On n'a pas trop envie de donner les secrets et c'est un avantage d'être un peu comme une équipe, quoi, en fait. Comme dans la vie, mais une équipe qui se prépare ensemble, chacun leur course, et entre nous, on va être encore nous deux plus forts.
Plus fort à deux, mais chacun sa course. L'amour en mer est un amour vache quand s'en mêle l'esprit de compétition. Et cette route n'aura rien d'une croisière pour les deux quadragénaires. Quatrième du Vendée Globe en 2009, sixième de la Jacques Vabre l'an dernier. Samantha la blonde a des chances de voir Pointe-à-Pitre avant Romain Lebrun, avant même une bonne partie de la flotte. Mais si le breton d'adoption peut griller la politesse à sa britannique de femme, promis, il ne se gênera pas.
Il n'y a aucune galanterie à la laisser passer. C'est une course, je pense qu'elle le prendrait très mal. Et moi aussi. Donc bien sûr, on va pas se faire de crasse. Hein. Je ferai pas quelque chose qui puisse être dangereux ou quoi que ce soit. Mais que le meilleur gagne, ça c'est la loi du bateau. Hein.
On est tous concurrents sur l'eau. C'est un sport déjà, c'est génial parce qu'il y a pas de division homme-femme. Donc on est tous là pour avoir la victoire. Et si c'est Romain ou un autre, moi c'est la guerre entre tout le monde jusqu'à la ligne d'arrivée franchie.
La guerre pendant quelques jours et au milieu quand même des périodes de trêve, le calumet de la paix s'appelle Ruben. À 7 ans, l'enfant du couple va pour la première fois voir partir ses deux parents.
C'est plus simple quand l'un de nous deux reste. Nous, celui qui part serein en disant bon, il n'y a rien qui change pour lui. Là, c'est les grands-parents qui viennent à la maison. Par contre, on fait tout pour lui, à part le fait qu'on ne soit pas là, rien ne change. Et puis, bah, on a l'habitude, ils savent très bien s'en occuper. Ils ont réussi à s'occuper de ça, donc ils vont réussir à s'occuper de notre petit garçon. Et puis voilà, après lui, il adore suivre la course, il est très sur la technologie en ce moment, il n'arrête pas de faire des Lego avec des foils ou des dérives, donc c'est vraiment son truc.
C'est notre plus gros fan finalement, mais on a de la chance aussi qu'il est cool avec nous, il nous laisse partir, il nous encourage, et ouais, peut-être un petit peu on fait ça pour lui. Hein.
La pression, c'est surtout de ne pas le décevoir, parce que lui suit ça avec intérêt, et si jamais... Il est inquiet, en plus, si on casse quelque chose, on sait qu'il va être inquiet, donc il faut que tout se passe bien.
Et pour l'instant, tout va bien, mer calme, a priori demain, au moment du départ, mais la route sera longue et agitée. Ça pourrait d'ailleurs se gâter dès mardi. Thomas de Saint-Léger, Saint-Malo, RFI.
Avec l'aide de Manu Pochet, c'est fini, dites donc déjà. Rendez-vous demain à la même heure avec Hélène Avril.